Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition de Peut contenir des infos.
Absolument.
Là, c'est pas du réchauffé, là.
C'est, Simon, c'est frais. Frais du jour. Comme le fromage.
Ah, ça, c'est excellent.
Le fromage, squeak, squeak.
J'adore.
Oui, le squeak, squeak. Mais oui.
Ben oui, mais ça, faut que tu laisses ça sur le comptoir pour que ça fasse squeak, squeak.
Oui, oui, oui. Ben, l'idéal, c'est de le conserver au frigidaire et de le sortir à peu près une heure ou deux avant que vous vouliez le manger. Et il va refaire le squeak, squeak.
T'as l'air d'un gars qui a un master ou baccalauréat ou je sais pas
trop. Je connais des gens qui ont travaillé dans des fromageries.
Okay.
Et oui, effectivement, on m'avait appris comment conserver. Parce que si tu laisses le squeak squeak juste sur le comptoir, puis mettons que tu finis pas le sac.
Ouais.
Puis tu le manges deux jours plus tard. Ah, il y a un petit goût.
Le caillis revient caillis.
Ouais, il est encore bon là, mais il est pas. C'est pas comme du fromage frais du jour.
Okay.
Alors, mais pour le garder frais du jour, c'est ça. Tu le mets au frigidaire et puis tu le ressors.
Parlant de frais du jour,
oui,
as-tu un mot du jour maintenant?
Oui, j'ai un mot du jour pour toi. Okay. Justement, ça tombe bien.
Oui.
Oui, parce qu'on a parlé de frigidaire. Le mot du jour, c'est pas frigidaire.
Non.
C'est frigo.
Frigo.
Oui.
OK. Hein? Frigo, faut que je fasse quelque chose avec ça.
Ah,
OK.
Oui.
On ne se met pas la tête dans le frigo pour garder les esprits au frais d'une semaine à l'autre. On ne fait à toute fin utile que de s'informer.
Mm-hmm.
Et on vous ramène de la matière pour l'émission Peut contenir des infos.
Du yoga pour ces dates.
Non, c'est pas ça partout. Aïe.
Non, honnêtement, là, tu t'en es bien sorti.
Vous êtes avec la tête dans le frigo? Non. Hein?
Non.
OK.
ben moi, quand je lave le frigo, effectivement,
oui,
j'ai
là,
la tête dans le frigo.
Sûr,
là,
mais c'est...
Oui, non, mais je me mets pas vraiment la tête dans le frigo.
Pour garder les idées au frais, non?
Oui, c'est... non.
Qui allons-nous recevoir cette semaine?
Ah, cette semaine à l'émission, vous allez voir, ça va être hyper intéressant, hyper informatif. On va en apprendre des affaires. Entre autres, on va parler radon avec Monsieur Mathieu Brossard de Santé Canada.
Le radon.
Le radon, ce petit gaz.
Ah, c'est ça, on entend souvent parler,
oui.
On a lu là-dessus, mais tu sais, on n'a jamais approfondi.
Oui, c'est cela.
Une bonne fondue. On va bien fondue des enfants. Alors, on n'a jamais approfondi vraiment ça.
C'est hein? ça.
Là, on va aller dans le fond.
Oui, on va aller vraiment.
OK.
On va en parler de long et en large. Et également, tu sais que, bon, malheureusement, l'hiver s'en... Ben, pas malheureusement. L'hiver s'en vient.
Oui, l'hiver s'en vient, absolument.
Oui,
pour
bon.
Ceux qui aiment l'hiver, c'est
ben
pas
oui,
malheureux.
C'est ça, c'est pas malheureux, là.
Quelqu'un qui aime pas pelleter, par exemple.
Non, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'adorais l'hiver, le moins, là. On va parler motoneige.
Ah oui?
Oui, avec le président du CMEO, Monsieur Chuck Boyer.
Un club de motoneige de l'Est.
De l'Est ontarien.
OK, parfait.
De l'Est de l'Ontario.
OK. Veux-tu commencer avec ton sujet ou tu veux que
ben
je commence?
Oui, ben,
je dois y avoir de quoi avec le frigo, je m'imagine.
Oui, c'est ça, oui. Okay. Oui, ben, on va peut-être avoir de la misère à passer à travers celui-là, là, mais...
Ah ouais?
Ben, peut-être. Toi, Simon, si je te dis, tu entreposes ton papier de toilette où?
Ben... Certainement pas dans le frigo, ça c'est sûr et certain. On a une petite place en bas, on a dans le sous-sol, là. On a une place où on met les mouchoirs, puis le papier essuie-tout, puis les trucs du genre.
Je pensais pas que tu allais aussi loin dans ton explication.
Non, mais c'est pas
correct.
Dans le frigo, ça c'est
okay,
clair.
Ben, c'est peut-être... La nouvelle tendance sur TikTok, OK? Les gens mettent papier de toilette dans le réfrigérateur.
Pourquoi? Pas pour le garder là. Je veux dire, comme, c'est pour le garder au frais?
Non, ça a une utilité.
OK.
C'est pour enrayer les odeurs.
Les odeurs?
Ben oui. Eh oui, c'est je te dis là, c'est la grosse tendance en ce moment.
Tu niaises? Non. Ah non, hein, pour vrai.
Puis moi je me dis au prix du papier de toilette, sorry là, mais achète-toi de la petite vache. Ça coûte moins cher qu'un rouleau de papier de toilette. Mais effectivement, parce que le papier de toilette, OK, va imbiber l'humidité qui se trouve dans le réfrigérateur.
Oh!
Donc, absorbe les odeurs.
OK, OK. Oui. Je pensais que le monde, ils prenaient leurs 12 rouleaux de papier toilette et mettaient ça dans le frigidaire, dans le frigo.
Un à la fois, Simon.
OK.
Ben, à moins que ton frigidaire il pue vraiment, là.
Non.
Là, tu peux en mettre.
Non, pas vraiment.
Là, mais si.
OK, OK, OK.
Si
je comprends
un petit peu, là. Ouais.
Je pensais que les gens conservaient réellement le papier toilette dans le frigo, puis je me disais, mettons, là. Mettons que t'es en train de faire un numéro 2, puis...
Ben, c'est ça.
D'abord,
t'en manques.
Pars de la salle de bain pour aller au frigo pour chercher ce que t'as besoin. Remarque, tu me diras que dans le sous-sol, c'est guère mieux, mais on planifie.
Oui,
puis
oui,
après
oui.
Ça, si t'en as vraiment besoin, mais qui est dans le frigidaire...
Il est fret. Les experts d'odeur de frigidaire mentionnent que la petite vache réussit en plus... d'absorber les odeurs,
oui.
Va neutraliser les acides qui vont causer les odeurs.
OK.
Ce que le papier de toilette ne peut pas faire.
Ben, je comprends.
Non, ça fait pas ça. Et les experts disent que, bon, tu peux mettre ton rouleau de papier de toilette et après 3 semaines, tu changes ton papier de toilette.
Ouais.
Et petite note bien importante, les experts conseillent de pas utiliser...
Ben, c'est...
Le rouleau à des fins personnelles.
Ben, je comprends, là.
Après.
Ouais.
À moins que vous voulez vous promener puis sentir. Ouais, c'est ça, non. C'est là que je voulais pas.
C'est là que tu voulais pas aller, OK. Mais j'allais faire une blague avec ça, mais. OK, dans ce cas-là, on va
ouais,
arrêter
non, c'est ça. Celle-là, c'est pour eux.
Je vais aller dans un sujet un petit peu plus sérieux.
OK.
J'en reviens pas encore de ton papier de toilette. le SMS, tu connais le SMS?
Le short message
service.
Oui.
OK. Il est en phase terminale, mesdames, messieurs.
Non.
En presque mort annoncée. Puis c'est pas des farces, là.
Moi.
Puis ça va coûter, à part de ça, des milliards de dollars aux opérateurs de téléphonie sans fil.
Ah, ouais.
Ouais. Il y a une étude de Juniper Research, qui est une firme qui se spécialise dans l'analyse du secteur des technologies de l'information et des télécoms, qui nous apprend que, effectivement, les opérateurs de téléphonie mobile pourraient perdre plusieurs milliards de dollars au cours des 5 prochaines années à venir à cause de la disparition annoncée des SMS.
Mm.
C'est que, d'abord, juste pour faire la petite histoire, là, très courte, le SMS, le premier, a été envoyé le 3 décembre 1992. Donc, ça date quand même pas d'hier. Là, si vous faites le compte, ça fait quand même une trentaine d'années ou à peu près. Et la recherche dont on parle aujourd'hui s'est penchée sur une 60aine de pays à travers le monde.
Okay.
Et on s'est arrêté à 24 300 statistiques sur le marché de la téléphonie sans fil pour s'apercevoir que des SMS, on en envoie de moins en moins.
De moins en moins. T'es-tu sérieux?
Absolument. Et même que ce qu'on apprend, c'est que dans un horizon pas si lointain, les short message service pourraient même, dans un certain sens, disparaître. Pourquoi vous allez me dire?
Ben, c'est ça que j'allais te demander. Là.
Parce que les gens utilisent tellement les applications WhatsApp, par exemple, Facebook Messenger et les autres messageries du genre.
Plutôt que d'envoyer un SMS.
Voilà. Les gens se disent, pourquoi je paierais pour 5$ ou 10$ par mois, par exemple, pour un forfait incluant justement les SMS, les Short Message Service,
les MMS.
Ou les MMS.
Oui.
Pourquoi je paierais pour avoir cet extra-là qui, ben des fois, va nous coûter... On le voit pas dans le prix là. Je veux dire, tu prends
c'est inclus dans le prix.
Tu prends ton package, excusez l'expression anglaise, de téléphonie sans fil. Tu payes ton 35, 40, 50 piastres par mois, mais c'est dedans. Mais les gens l'utilisent de moins en moins. Donc c'est ça. Et il y a même des gens qui maintenant choisissent un forfait de téléphonie sans fil et disent tout simplement non. Je vais pas payer pour le package au complet. Je vais prendre à la pièce. Je vais prendre les données mobiles. Je vais prendre les appels illimités, soit. mais je ne prendrai pas les SMS et je vais me contenter de Messenger et de WhatsApp, par exemple.
OK, OK. Mais je pense pas qu'au Canada, tu peux prendre à la pièce.
Ben, il y a quand même...
Oui, il y a peut-être des services qui l'offrent là, maintenant.
Il y a certains
là.
Services qui l'offrent, ouais. Je sais, c'est probablement plus répandu dans certaines provinces que d'autres, ouais. C'est sûr. À combien estime-t-on les pertes que les opérateurs de téléphonie sans fil combien pourraient-ils perdre sur les 5 prochaines années? On dit qu'ils pourraient perdre jusqu'à 3 milliards de dollars en revenus de moins à cause justement de cette tranquille désertion des SMS. Parce que c'est ça la réflexion des gens. Les gens se disent, ben comme les SMS, pourquoi je paierais des SMS alors que j'en envoie à toute fait utile pratiquement plus? Et la tendance est tellement... François, c'est pas parce que toi puis moi, non, on en a envoyé autant qu'avant monde est comme ça.
Nous, on ne sert pas des autres plateformes, c'est pour ça. Là.
C'est ça. C'est tellement vrai que les compagnies, maintenant, il y a des compagnies qui jadis offraient, par exemple, de suivre ta commande de resto par SMS ou encore des trucs du genre.
Oui.
Il y a des compagnies qui abandonnent ça maintenant, qui disent... maintenant, si tu veux recevoir le tracking de ton colis, si tu veux rejoindre notre service client des services du genre, tu n'auras plus recours au SMS. Tu vas tourner vers soit notre chat sur notre site internet, par exemple sur Messenger, soit sur WhatsApp ou encore d'autres applications du genre. Mmh. Et qu'est-ce qui justifie cette désertion, et je conclurai là-dessus, qu'est-ce qui pousse en plus les consommateurs de plus en plus à délaisser les SMS, selon toi? La fraude. La fraude par les SMS.
Effectivement,
Les escrocs avec leur arnaque de fausses livraisons, de faux cadeaux, de faux ci puis de faux ça, ont tellement, pourri l'existence des consommateurs. Les gens sont tellement tannés de recevoir de la crap sur leur cellulaire que les gens disent « Ouais, je n'aurai tout simplement plus de SMS. Je vais arrêter de recevoir des SMS. Je vais communiquer avec mes proches par WhatsApp ou encore par Facebook Messenger. Fait que je vais arrêter de me faire écœurer par des fraudeurs. »
Mais c'est pourtant, Simon, là, je veux dire, OK, de la fraude, là, t'en reçois, premièrement, par les SMS, t'en reçois par téléphone, t'en sois par email, t'en sois partout de la fraude.
Ah,
il y en a partout, là.
Les gens, effectivement, vont continuer d'être victimes de fraude.
Parce que si on abandonne une plateforme, eux autres vont se tourner vers une autre plateforme.
Ah non, il y a fort à parier.
C'est tout ce qu'ils vont faire.
Ceci dit, on estime que d'ici 5 ans, en même temps que les gens vont envoyer de moins en moins de SMS, on dit que le nombre d'utilisateurs de ces fameuses messageries alternatives va passer de 3,8 milliards qu'ils sont actuellement à 5 milliards d'ici l'année 2028.
Wow.
Donc, c'est pas parce que...
Ça m'inclut pas, là, mais...
C'est pas parce que François Côté et Simon Forgue n'utilisent pas tant que ça les WhatsApp, Messenger et compagnie, que les plus jeunes qui poussent en arrière de nous autres n'en sont pas des utilisateurs.
Fait que finalement, il va arriver le même sort qu'avec le téléphone.
Ben, à toute fin.
Le monde s'appelle plus.
Le monde se téléphone pratiquement plus.
Ben
les gens communiquent par les messageries, alors le SMS, ça va juste être la suite logique à toute fin utile. On est rendu des dinosaures technologiques. On se pensait, nous autres, on pensait qu'on était super in puis qu'on connaissait tout ça, mais non.
On a vu arriver l'Internet.
Ben oui, c'est ça, tu sais. On va probablement mourir Internet aussi, là, c'est pareil de ça.
Avez-vous essayé de texter avec un vieux téléphone?
les textos.
Juste les chiffres, là.
Ouais, non, ça
c'est... c'était long, hein?
Ah non, c'est pas des gros chars.
Non, mais c'est pour ça que c'est pour ça le SMS, c'est parce que t'envoyais des messages tellement courts.
Oui.
Allô?
Avec les abréviations.
Oui, c'est
T
ça.
T'apostrophe S, là,
c'est c'est ça.
Je suis là, c'est moi.
Ah oui, parce que sinon, on prenait ben trop de temps à écrire un message. On n'avait pas tous des BlackBerry.
Non. C'est ça. On est rendu au moment où on doit s'arrêter pour une première pause et revenir dans un instant avec notre première entrevue de l'émission. Restez branchés, on est là pour encore 45 minutes ou à peu près avec vous autres dans l'émission Peut contenir des infos.
Restez en contact avec Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Peut contenir des infos.
François, connais-tu le radon?
Simon, on en entend parler énormément depuis quelques années, mais Exactement, c'est quoi? Je suis pas sûr.
C'est le genre de choses dont on entend parler à la télé, on lit ça dans le journal, ou encore on en entend parler à la radio, puis on se dit tout le temps, le radon, je vais chercher ça quand je vais avoir 5 minutes. Et pourtant...
On devrait peut-être pas, hein?
On devrait peut-être pas repousser ça au calendre grec. Qu'est-ce que c'est le radon? Qu'est-ce que ça mange en hiver, permettez-moi l'expression? Est-ce qu'on en a chez nous? Ben, on va éclaircir tout ça avec celui qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission Peut contenir des infos. Il s'appelle Mathieu Brossard. Il est spécialiste en rayonnement chez Santé Canada et on l'a au téléphone avec nous. Monsieur Brossard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Ford.
Monsieur Brossard, d'abord, le radon, on entend parler de ça depuis maintenant plusieurs années. La première question à 100$, qu'est-ce que c'est le radon et ça vient d'où le radon?
Le radon, c'est un gaz radioactif qui est produit par le sol. Puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste pas dans le sol. Il a la capacité d'infiltrer l'air de nos maisons. Puis c'est malheureusement la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.
Ah, vraiment?
Oui.
Oh, wow. Vous avez parlé que, bon, ça infiltre dans nos maisons, mais comment il pénètre le radon dans nos maisons?
Souvent les bâtiments, les maisons, ils ont une fondation qui est en contact avec le sol, les sous-sols par exemple. Et il y a souvent donc des voies d'infiltration, comme des fissures, des joints de retrait, le passage des canalisations, ce qui fait que souvent les fondations là sont pas étanches ou peu étanches au gaz souterrain. Puis c'est comme ça là que le gaz radon va réussir à infiltrer l'air intérieur. C'est pour ça qu'on recommande vraiment à tout le monde, là, à vos auditeurs, de faire une mesure du radon, puis c'est la bonne période pour le faire.
Ah oui, il y a des périodes dans l'année qui sont plus propices que d'autres pour faire la mesure du radon.
Ben, lorsqu'on commence à vivre un peu plus à l'intérieur, à fermer les fenêtres aussi, donc on va moins ventiler la maison, puis règle, à notre connaissance, là, assez souvent, on va avoir tendance à trouver plus de radon dans l'air intérieur en période de chauffage. Donc, le mois de novembre, c'est le mois national de prévention contre le radon. Donc, et on invite les gens à faire une mesure, oui.
Ah, ben il y a un lien de cause à effet, c'est assez intéressant. Vous parliez tantôt que pour l'être humain, c'est après le tabagisme et d'autres causes comme celle-là. C'est une des grandes causes là du cancer du poumon. Mais outre ça, c'est quoi les effets sur la santé humaine d'avoir du radon chez soi? C'est quoi les risques qu'on peut courir, disons, à long terme à force d'être exposé à ce gaz radioactif?
Le seul effet reconnu pour le radon, puis c'est bien suffisant, là, ben c'est le cancer du poumon. Okay. Le cancer du poumon, c'est pas le cancer qui est le plus fréquent, mais c'est le cancer qui tue le plus dans la population. Donc, c'est certainement, il y a de la prévention à faire. Certains de vos auditeurs là, vont recevoir des cartes postales. On envoie des cartes postales à chaque mois de novembre, chaque janvier, depuis plusieurs années, où on nous informe là qu'il y a environ 30% des cas de cancer du poumon qu'on va rencontrer chez les gens qui ne fument pas, donc qui implique le radon, et que malheureusement, le taux de survie est très bas. C'est-à-dire qu'après 5 ans, là, il y a seulement 20% des gens qui sont diagnostiqués d'un cancer du poumon qui vont être encore vivants. Donc, ça donne vraiment l'importance de faire de la prévention. On peut acheter un détecteur de radon à bon marché en visitant Occupe-toi du radon. C'est le nom de la campagne nationale contre le radon au Canada. Occupe-toi du radon, ou en anglais, Take Action on Radon. Et le détecteur vous est envoyé par la poste. On fait une mesure en le laissant là, au plus bas niveau occupé de votre maison. Le radon, ça vient du sol. Donc, si votre sol est occupé, on mesure dans le sous-sol. On retourne le détecteur par la poste, puis il y a un rapport qui vous est envoyé généralement là, par courrier électronique ou que vous pouvez aller télécharger sur la page là, des laboratoires qui offrent les services de mesure.
Est-ce qu'il y a des signes de la présence du radon dans notre maison?
Ouais, c'est malheureusement incolore, inodore. Comme souvent les radiations, hein, quand vous faites passer un rayon X ou une tomodensitométrie, vous avez des radiations qui vous traversent, vous les sentez pas. Radon, c'est un peu comme ça. Par contre, c'est un gaz. Donc, lui, c'est quand on va la respirer que ça va être un enjeu pour nos poumons, pour le risque de cancer du poumon. Et c'est pour ça qu'on recommande vraiment, tout le monde devrait faire une mesure de radon. Là. Selon les informations qu'on a, il y a environ seulement 1 personne sur 10 au Canada qui a fait une mesure de radon. Puis on à Santé Canada, on aimerait que tout le monde fasse cette mesure-là. Tout le monde a un détecteur de fumée à la maison. ceux qui ont des appareils à combustion, un détecteur de monoxyde de carbone, mais pourtant, il y a environ 10 fois plus de risques de décéder d'un cancer du poumon associé au radon. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui devrait être fait par tout le monde.
OK. Je ne veux pas occulter cette question-là. Vous avez dit tout à l'heure, ça vient du sol, mais ça vient d'où? Comment ça s'est formé, ça, le radon? Est-ce que c'est, je sais pas moi, des animaux préhistoriques en putréfaction? Là, tu sais, je lance des idées comme ça.
Non, ça vient de l'uranium qui est dans le sol. Donc, okay. L'uranium, c'est un métal lourd, radioactif, qui va faire des transformations parce qu'on est radioactif, on est instable. Puis comment on se stabilise? Ben, en libérant de l'énergie. Qui sont les radiations, jusqu'à devenir un métal qui s'appelle le radium. Mais le radium, lui, se transforme en gaz. Mais le gaz est toujours radioactif. Là, ce gaz-là a la capacité de voyager dans le sol, d'infiltrer les habitations. Puis donc, ça vient vraiment de l'uranium qui est naturellement présent dans le sol, autour des maisons. Oui.
Donc ça, on en a comme partout au Canada. Il n'y a pas une province qui en a plus que d'autres, là.
On a mesuré, au début du programme, on a mesuré 15 000 maisons. C'est sur notre site Internet. Là. C'est l'étude pancanadienne dans les résidences. Et puis, oui, on a trouvé du radon partout à différents niveaux. Il y a des endroits qui en a plus. Il y a des endroits qui en a moins. Comme, okay. Il y a plus de radon au Nouveau-Brunswick qu'en Ontario. Mais on en a trouvé partout à différents niveaux. Et même dans les endroits où on en trouve beaucoup, comme par exemple une maison sur deux, certaines villes, certaines provinces ont une maison sur quatre qui ont un problème de radon, ben il faut mesurer pour savoir c'est lesquelles, parce que les maisons sont pas toutes voisines. C'est-à-dire que il y a beaucoup de variables dans l'infiltration de radon. Il y a le sol, comment il va produire du radon ensuite. La maison, c'est quoi l'état des fondations? Est-ce qu'il y a plusieurs fissures, plusieurs voies d'infiltration? Ensuite, comment la maison est ventilée, chauffée, occupée? Tout ça, ça a des impacts sur la concentration de radon qu'on va trouver dans une maison. Puis qu'on ait une maison sur 100 qui a un problème dans les zones au Canada où il n'y a pas beaucoup de radon, ou qu'il y a une maison sur deux dans les zones où il y en a beaucoup, ben la seule façon de savoir, c'est de faire la mesure. Okay. Puis quand on va en trouver, ben ça se corrige. Il faut savoir qu'on n'est pas pris avec ça, là. On peut empêcher le radon, okay, de rentrer dans l'air intérieur.
Okay. Mais c'est peut-être un peu technique comme question, mais c'est quoi les normes au Canada, mettons, en matière de radon, on va dire? On a chez soi un détecteur, on l'envoie à la compagnie, à un laboratoire, oui, on reçoit le résultat, on se met à, excusez l'expression, mais on se met à paniquer. Mm-hmm. À partir de quel niveau, mettons?
Ah, il faut pas paniquer avec le radon. C'est, okay, un risque à long terme. Okay. C'est pas comme le monoxyde de carbone qu'on parlait plus tôt. Ouais. Votre détecteur de monoxyde de carbone sonne, il faut sortir et on évacue tout de suite la maison. On réfléchit pas. Avec le radon, c'est un risque à long terme. Donc, un peu comme le tabagisme, c'est pas quelque chose qui va vous rendre malade tout de suite, mais c'est quelque chose qu'après plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ça va augmenter vos risques. Maintenant, le niveau n'a pas dépassé au Canada, en fait, le seuil d'action à partir duquel Santé Canada, on recommande de faire des travaux pour réduire les concentrations de radon. C'est possible de le faire efficacement. C'est 200. Donc, tout le monde qui nous écoute, qui vont faire une mesure de radon, vont recevoir un rapport. Parce qu'il y a du radon dans toutes les maisons au Canada. Il y en a même dans l'air extérieur. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y en a trop chez moi? Est-ce qu'il y en a trop dans l'air que je respire chez moi? Puis c'est ça que la mesure va vous permettre de savoir.
Une fois qu'on a les résultats de tests, on a du radon chez soi, comment est-ce qu'on peut réduire sa concentration?
La technique la plus efficace là, pour réduire l'infiltration de radon, c'est vraiment de l'empêcher de rentrer avec la dépressurisation active du sol. C'est un nom un peu compliqué pour dire qu'on prend quelque chose de similaire à un ventilateur de salle de bain. Sauf qu'au lieu d'aspirer l'air humide de votre salle de bain, ce ventilateur-là va être connecté sous la dalle. Donc, il y a un petit trou qui est fait de 10 cm, là, un endroit qui convient. Et on va aller chercher donc les gaz souterrains puis les évacuer à l'extérieur. Un peu comme votre ventilateur de salle de bain évacue l'air humide. Lorsque vous prenez votre douche, bien là, c'est possible de faire la même chose, d'évacuer les gaz souterrains qui sont sous la dalle de béton avant qu'ils puissent rentrer. Ça, c'est vraiment très, très efficace. Là, il y a des maisons, des fois, qui ont plusieurs milliers de becquerels par mètre cube. Le niveau d'action, c'est à 200, je vous rappelle. Puis ça va les corriger puis les amener là, à quelques dizaines de becquerels par mètre cube, ce qui est normal de retrouver là, dans l'air intérieur.
Ben, en clair, de la même façon qu'on a un drain dans le plancher du sous-sol pour évacuer de l'eau quand il y en a trop, par exemple, quand ça déborde, ben il y a moyen justement de se débarrasser de ce gaz-là, de ce radon, avec un dispositif un peu comme celui que vous nous avez décrit. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, puis presque partout là au Canada, on trouve des entrepreneurs certifiés qui ont une certification qu'on reconnaît. Santé Canada, le Programme national de compétences sur le radon au Canada. Donc, il y a des entrepreneurs qui ont une certification qu'on reconnaît, là, qui c'est leur travail de faire ça à tous les jours, là, d'installer ces systèmes-là, parce que ça doit être fait en respectant certaines règles. Là. Il faut s'assurer qu'on est capable d'aller chercher le radon sous la plus grande superficie possible de la dalle. Ensuite, les tuyaux d'évacuation, ben ça doit pas être posé trop près d'une fenêtre ou trop près de votre prise d'échangeur d'air, par exemple, mais ça demeure quand même simple et puis ça corrige tous les problèmes.
Ah, c'est intéressant. Oui. Monsieur Brossard, en conclusion, on peut rappeler peut-être l'adresse du site Internet si les gens veulent avoir davantage de précision, compte tenu du fait que c'est le mois de sensibilisation, évidemment.
Occupe-toi du radon.ca ou Santé Canada radon dans un moteur de recherche, là, vous allez trouver beaucoup d'informations. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de faire la mesure. Puis que s'il y a des niveaux élevés qui sont trouvés chez vous, de corriger dans les délais qui sont recommandés. Ça se corrige, le radon. Il n'y a pas de raison de vivre avec ça.
Ben, entrevue très pertinente qui va peut-être pas vous sauver la vie à très, très, très courte échéance, mais sur le long terme, on l'a entendu, ça peut avoir quand même des répercussions, ma foi, très, très graves. Là, on parle de jusqu'à du cancer du poumon. Mathieu Brossard, spécialiste en rayonnement chez Santé Canada, il nous parlait du radon qu'on a apparemment tous chez soi. Merci beaucoup, M. Brossard.
Merci, M. Fogg. Merci, M. Côté. Salutations à vos auditeurs.
Merci.
Merci.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Rendu au mois de novembre, François, l'hiver est quasiment à nos portes.
Ça s'en vient vite.
Ben, remarque que dans certains coins du pays, c'est évident que ça arrive plus tôt qu'à d'autres endroits. Oui. Et pour plusieurs adeptes de motoneige, ben là, quand l'hiver arrive, ça annonce évidemment une saison de randonnée qui va bientôt débuter.
Et la motoneige, c'est gros pour l'économie.
Ah, c'est très gros. Hein? Ah, c'est des milliards de dollars dans l'économie canadienne.
Alors, imaginez. Mais comment qu'on se prépare dans les clubs de motoneige en prévision de la saison?
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle on reçoit en entrevue le président d'un des clubs de motoneige qui est certainement parmi les plus importants de la province de l'Ontario. C'est le CMEO, dans son abréviation. Donc, le Club de motoneige de l'Est Ontario. Et on reçoit, pas n'importe qui quand même, on reçoit le président. C'est M. Chuck Boyer qui est en entrevue avec nous. Bonjour, M. Boyer.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, la saison hivernale qui est pas encore là, mais ça s'en vient, elle est presque à nos portes. Monsieur Boyer, on se trompe pas là, quand on dit que le club dont vous êtes le président, c'est l'un des plus grands de la province. Parlez-nous un peu de votre club de motoneige pour démarrer.
Ben nous, on se retrouve surtout la grande région de Prescott-Russell. La province est divisée en 16 districts. Nous autres, on fait partie du district 1. Le district 1, c'est un des plus gros de la province. Ça couvre toute la région entre Napanee, vers Carlton Place, vers Renfrew et tout ce qui va à l'est, vers la province du Québec. Puis nous autres, on représente 400 km de sentier parmi le district numéro 1 qui nous fait le plus gros club de notre district.
Wow! Quels sont justement les préparatifs pour un club de motoneige comme le vôtre, de façon assez générale, là, pour s'assurer que les sentiers vont être prêts pour le début de la saison?
Généralement, à toutes les années, les sentiers sont plus ou moins semblables.
Okay.
Mais on se fait toujours là. Y a-t-il des changements qui se sont passés durant l'été? Fait que plusieurs de nos sentiers sont sur des terres privées, des agriculteurs. Donc, c'est toujours à cet instant de l'année de recontacter les agriculteurs, faire certain que le droit d'accès est encore possible, qu'ils nous laissent passer. Puis, y a-t-il des changements sur leur terre où qu'on va passer? Des fois, il y a des différentes plantations de blé d'Inde, blé ou un peu de sorte pour faire des changements. Puis ensuite, ben c'est la même chose pour les municipalités et d'autres places qu'on passe. Il y a des arbres qui ont tombé, il y a des calvrettes qui ont effondré, des ponts qui ont brisé. Donc, c'est là qu'on fait la vérification.
Bref, on s'assure que tout soit sécuritaire pour que les motoneigistes, quand ils vont enfourcher leur motoneige, qu'ils soient capables de circuler de façon sécuritaire à des endroits où, a priori, on aurait tendance à penser que tout va toujours bien se passer, mais ça arrive que de temps en temps, il y a certains obstacles qui soient dressés là, sur le passage des motoneigistes. Et c'est ça que vous faites, vous rendez les choses sécuritaires, grosso modo.
Exact. Quand c'est l'hiver, puis là, tout est blanc, puis les surfaces qui ont passé, ça a l'air très beau, mais ça ne représente pas les 20 quelques ponts qu'on a dans juste notre secteur, les trentaines d'autres de calvrettes, puis toutes les fossés qui sont remplis. Donc, il y a beaucoup de surprises puis de travail à l'arrière-plan comparativement à ce qu'on voit du produit final.
C'est quoi les équipements puis les outils que vous utilisez généralement pour entretenir et aussi préparer les sentiers?
Pour la préparation des sentiers, si on parle juste ce que le monde voit, c'est l'installation des piquettes. Donc, c'est toute la machinerie que le monde utilise qui appartient. Tu sais, des side-by-side, des quatre roues. Mais c'est l'utilisation, c'est des marteaux, des masses pour planter les piquets, des drills pour les rentrer quand le sol est plus gelé. Mais quand ça vient des plus gros ouvrages, ben là, c'est sûr qu'on a besoin des excavatrices, des plus gros tracteurs pour faire des pompes et des calvrettes. Mais en grosso modo, c'est la force du bénévolat qui mène le tout.
Ben c'est ce que j'allais dire, M. Boyer. C'est quand même une grosse logistique. Qui fait tout ça? Est-ce que ce sont seulement des bénévoles? Est-ce qu'il y a des salariés dans un club de motoneige? Nous, l'émission est diffusée à la grandeur du Canada, mais de façon générale, comme dans un club comme le vôtre, est-ce qu'on compte sur la seule force des membres pour faire ça?
Ouais, ben nous autres, tous les clubs en Ontario, les seuls salariés qu'ils ont, c'est ceux qui gèrent le bureau maître.
OK.
C'est vraiment la fédération, mais à l'intérieur d'un club, c'est tout bénévole. Si je prends notre club à nous, on est un exécutif de 13 personnes, puis on a à peu près un 70 bénévoles divisés par différents secteurs, puis il n'y a aucun salaire pour personne. C'est vraiment juste de l'esprit de vouloir que le sport continue.
Eh bien, chapeau. Hein?
Oui, mais un chapeau. Quelles sont les principales difficultés ou les défis auxquels les clubs de motoneige peuvent être confrontés à ce temps-ci?
Numéro un, ça va toujours être les droits de passage, d'assurer qu'on peut toujours passer sur les terres. Donc, si les propriétaires terriens ne nous donnent pas accès, ben les sentiers peuvent pas passer.
Mm-hmm.
Ça, c'est vraiment numéro un. Et numéro deux, c'est d'assurer que les bénévoles sont là chaque année pour commencer pour faire le travail. Parce que comme on a dit tantôt, c'est vraiment la force. C'est les deux plus gros facteurs qui comptent le tout. Les sous qu'on a pour dépenser pour l'installation des piquets, acheter du nouveau puis l'entretien. Bien, les seuls revenus qu'on a, c'est l'achat des passes de saison qui sont à travers la province. C'est le seul revenu que les clubs ont. Donc, c'est vraiment les trois principes caractéristiques qui font rouler les clubs de motoneige.
Ah, dites-moi donc une chose, M. Boyer. Pendant la pandémie, on a, je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais on a comme senti une espèce de résurgence ou d'une montée de la motoneige avec toutes les affaires de restrictions sanitaires. Les gens cherchaient des loisirs, des passe-temps à faire à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que les gens ont commencé davantage à aimer la motoneige. C'est une impression que j'ai eue ou effectivement, vous autres, vous avez constaté ça aussi?
Oui, c'est exact. À chaque année, on a un AGA avec la Fédération. Les statistiques l'ont démontré. Je pense qu'on a une augmentation d'environ 14% dans l'achat de pneus et de monde qui font plus de motoneige.
Wow.
Là, cette année, on dirait que ça commence à redescendre, mais c'est quand même plus haut que ce que c'était pré-pandémie. Donc oui, je pense qu'il y a eu un extra d'attirer. C'est un des seuls loisirs que le monde pouvait faire, donc c'est sûr que ça lui venait.
Ben oui, les gens voulaient être dehors. Hein? On était à cette année d'être en dedans.
Ouais.
Est-ce qu'on fait aussi de la sensibilisation puis des activités de promotion avant le début de la saison?
L'été, sensibilisation, je dirais qu'il n'y en a pas gros autre que ce que les bénévoles de chaque club décident de faire. Bon, le monde donne tellement de temps l'hiver que c'est plus là que ça se passe.
Ouais.
La sensibilisation qu'il y a, c'est toujours de respecter les propriétés des terrains. C'est pour ça que quand le monde y achète leur passe, c'est ainsi de l'année, que les passes sont toujours à rabais avec la saison commence. Il y a toujours une vidéo que le monde doit regarder de respecter les propriétaires, et ainsi de suite. Mais c'est grosso modo, c'est plus durant l'hiver que les activités sport.
Ouais. M. Boyer, en terminant, là, si vous avez des conseils ou des recommandations pour les motoneigistes, qu'ils soient des motoneigistes aguerris ou encore des nouveaux là, qui vont enfourcher une motoneige pour la première fois, en prévision de la saison d'hiver qui s'en vient, qu'est-ce que vous donneriez comme conseils ou recommandations en terminant?
Mais faites certain d'acheter vos permis, c'est contre la loi de ne pas avoir de permis. Toujours respecter les sentiers, les propriétés des terrains, c'est vraiment le plus gros obstacle. Il faut rester à l'intérieur des sentiers. avoir du plaisir, faire attention à la vitesse. C'est un sport, tout le monde veut sur la maison le soir puis le matin, donc c'est la saison est courte dans notre secteur. Si on est chanceux, c'est un split à 8 semaines, mais profitez-en. Je veux dire, c'est la saison est courte, donc.
Ça, faire ça de façon sécuritaire pour pas que la saison se termine de façon abrupte et peut-être pour tout le temps, hein, sait-on jamais. Monsieur Boyer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il est le président du club de motoneige de l'Est Ontario. La saison est pratiquement à nos portes. Enfin, ça va commencer d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, puis on va vous souhaiter une bonne saison, Monsieur Boyer.
Ça me fait plaisir, n'importe quand.
Merci.
Peut contenir des infos.
On peut remercier évidemment Monsieur Chuck Boyer, oui, le président du club de motoneige de l'Est Ontario, qui était là il y a quelques instants pour nous parler de ce début de saison prochain.
Il y a des gens qui travaillent fort pour offrir des pistes qui sont belles aux motoneigistes.
Ouais, j'ai été surpris de voir qu'il y avait autant d'efforts qui étaient mis de façon tout à fait bénévole.
Oui.
Wow, faut vraiment triper sur la motoneige, hein. Faut être impliqué. François, tu sais une chose, c'est que il y a une nouvelle station qui s'est greffée à toute la gang qui nous diffuse à travers le pays.
T'es-tu sérieux?
Je te jure, vrai comme je suis là.
Ah oui.
Drette là.
Dans quelle région?
Dans le Grand Moncton.
Tu vrai?
Ouais, il y a une radio qui s'appelle Kodiak FM.
Pas CKUM.
CKUM. Qui est campé ou basé à l'Université de Moncton. Mm-hmm. Puis depuis récemment, eux autres, ils diffusent l'émission Peut contenir des infos.
Ben, bonjour aux gens de la région de Moncton qui nous écoutent via CKUM.
Absolument. On est écoutés, entendus aux quatre coins du pays par tout près d'une vingtaine de radios. Si c'est pas 20, il faudrait que je me retrempe dans notre feuille, dans notre liste des diffuseurs. Mais
20 et plus.
Ouais. Et ils viennent de joindre à nous autres, ben, tant mieux.
Ben oui.
Puis espérons que vous allez être là pour l'année prochaine, parce que ça a l'air, j'ai entendu dire que le patron avait l'air, somme toute, assez satisfait.
Ah ouais?
Il dit que ça sonnait pas pire.
Ah.
J'ai eu oui de dire.
C'est pas l'impression que j'avais eue, mais c'est correct.
Moi, j'ai pas vu de 4%, là, j'ai pas vu mon bleu, rien. Là,
non?
Ça fait que non.
Ah, ben c'est vrai, tant qu'à ça.
On est à quelques semaines à peine du temps des fêtes.
Ben oui, on nous a ravisé.
Il aurait fallu qu'il nous donne un petit quelque chose pour nous dire adieu. Là.
Ben oui. T'as-tu une montre?
J'ai pas eu de monde, j'ai pas rien eu, pas de certificat cadeau de remerciement.
Fait qu'on est correct.
On devrait être pas pire.
Oui.
Juste en passant, si ça vous tente de demeurer en contact avec cette émission-ci, vous pouvez soit nous écrire par courrier électronique. Te souviens-tu de l'adresse de courriel?
Bien sûr que je m'en souviens. C'est PCDI.
Oui.
PCDI, comme dans?
Peut contenir des infos.
Bravo.
Ah bon, mon Dieu.
@
Oui.
Radio RFA. .com.
Ou sinon, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook.
Oui, on a ça.
Où on donne de temps en temps des petites bribes d'informations, puis on va, par exemple, annoncer les invités de la semaine à venir. Alors voilà, Facebook, c'est une autre belle place pour aller nous suivre.
Effectivement, puis si vous voulez, vous pouvez nous écouter aussi en rattrapage.
Oui, ah oui, absolument.
Noradio.ca.
Oui.
NOS, radio.
Ou sinon sur le site web officiel de l'Alliance des radios communautaires du Canada qui est le
radio-rfa.com.
Et bon garçon, te dis que t'apprends bien tes leçons, toi. On s'en vient dans un instant avec le quiz.
Oui, absolument.
Restez branchés, oui.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Nous en sommes déjà rendus à la dernière ligne droite de l'émission « Peut contenir des infos ».
Ça passe tellement vite.
Et à ce moment-ci de l'émission…
Oui.
C'est le quiz.
C'est le quiz, mon cher animateur.
As-tu la moindre idée du sujet qu'on va aborder cette semaine?
Zéro.
Zéro pointé?
Zéro aucune.
Les Beatles…
OK, on va retourner loin là dans nos souvenirs. Bon.
Pourquoi les Beatles?
Oui, pourquoi les Beatles, mon cher?
Parce qu'ils ont lancé récemment une nouvelle chanson.
Oui.
Now and Then. Et c'est grâce, entre autres, à l'intelligence artificielle qu'on a pu, pour ainsi dire, ressuscité deux défunts Beatles. Oui. On a pris des tracks de musique et de voix là, qui avaient été produits jadis. On a rafistolé ça. Et Paul McCartney et Ringo Starr, qui sont les deux derniers Beatles vivants, ont donc pu ajouter leur partition à eux autres. Par-dessus ces enregistrements des regrettés John Lennon et George Harrison, qui sont décédés, soit dit en passant, hein? 1980 pour John, 2001 pour George. Mm-hmm. Et pour se remémorer des souvenirs des Beatles, on y va avec un vrai ou faux.
OK.
Sur les Beatles. Ouais. Ça va être peut-être un peu plus facile.
Peut-être.
Peut-être.
Oui. Parce qu'on s'en retourne loin, là.
Ouais, mais en même temps, on les connaît pas mal tous. Oui, oui. Même les plus jeunes ont déjà entendu parler des Beatles. OK, les souvenirs sont pas gravés dans leur mémoire, mais
non.
On a tous une bribe d'informations ou deux sur les Beatles.
Puis, je veux dire, pour les gens de notre âge, on a tous eu un album des Beatles.
Ah oui, au moins.
Que ce soit le rouge, le bleu ou les autres.
C'est ça. Ou le blanc peut-être aussi, non?
Oui.
OK.
Abbey Road.
D'abord, la première question. Les Beatles ont été d'abord connus comme The Quarrymen. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. C'est le nom qui était inspiré de l'époque, pas de l'époque, mais de l'école. L'époque, comme ça date de l'époque.
L'époque.
L'école qu'il fréquentait à cette époque-là, voilà.
Okay.
Alors, c'était la Quarry Bank Grammar School de Liverpool. Et puis, c'est de là, donc, qui est venu le nom des Quarrymen. Deuxième question. Tous les membres des Beatles étaient originaires de Liverpool, en Angleterre. Vrai ou faux?
Faux.
Faux. Les membres du quatuor final.
Oui, c'est ça.
Eux l'étaient. Oui. John, George, mais Ringo et Paul.
Mais le premier batteur, je pense, hein.
C'est Pete Best.
Oui, c'est ça.
Il est né en Inde. Et Stuart Sutcliffe, qui a été lui aussi membre, mais très, 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 très brièvement des Beatles, je pense un an ou deux. Lui, qui est décédé en 1962, soit dit en passant, il était originaire d'Édimbourg.
Ah, okay.
Numéro 3. Paul McCartney a été le premier Beatles à se marier. C'est-tu vrai ou faux, ça?
Oh, ça, c'est une bonne, ça. Attends une minute, là. OK, il s'est marié avec Linda, mais là, as-tu été le premier? John Lennon, il était-tu marié avec Yoko?
Et...
je veux dire, vrai...
Non, c'est faux.
C'est faux.
Ouais, c'est John qui a été le premier.
Ah oui.
Et attention.
Oui.
Pas avec Yoko, hein.
Ah non.
Non, il a épousé Cynthia Powell en 1962. Et de leur union est d'ailleurs né un enfant qui est un excellent, moi, à mon sens, là, Julian, son fils.
Oh oui. Oh oui, Julian Lennon.
Julian Lennon.
Oui.
As-tu déjà entendu chanter Julian Lennon?
Oui, absolument. J'avais son album.
Ouais. Oui. Valotte, c'est ça, hein.
Oui.
C'est très bon, cet album. C'est très bon.
Super bon.
La pomme n'est pas tombée loin
non,
de l'arbre,
non,
là, parce que
non.
Ça sonnait vraiment très bien, cette affaire-là. Alors voilà, John a été le premier à se marier.
Mais, s'est-tu marié avec Yoko? Étais-tu marié? Je suis pas sûr qu'il était marié.
Non, je pense que oui.
Oui?
Il me semble que oui, mais c'est lui qui a été le premier à se marier avec Cynthia Powell. Ça marchait pas terrible, ça, leur affaire. Non, ça n'a pas duré très, très longtemps.
Et on sait ce qui est arrivé avec Yoko, mais en tout cas, on n'ira pas là.
C'est pour le groupe, là, ça a
été... Non, on ira pas là.
Numéro 4, les Beatles ont donné leur ultime représentation publique sur le toit de leur studio d'enregistrement à Londres. Vrai ou faux?
Je dirais vrai.
C'est vrai?
Oui, je dirais vrai, ça.
Leur dernier spectacle, avec des étiquettes, là, tout ça, ça a eu lieu en 1966 au Candlestick Park à San Francisco.
Oui.
Mais l'ultime performance live des Beatles, ce qu'on a appelé le célèbre Rooftop Concert, lui s'est déroulé sur le toit des studios d'Apple Corps à Londres. Apple, c'est la firme là, sur laquelle il se produisait. Et l'événement a eu lieu le 30 janvier 1969.
Tu sais que c'est pour cette raison que U2 avait fait Where the Streets Have No Name sur le toit d'un édifice.
Il y a plusieurs groupes aussi qui ont répété à quelque part cet exploit-là ou en fait cette performance mythique des Beatles en faisant à leur tour une espèce de concert sur le toit d'un édifice puis les polices qui arrivent là puis qui interrompent ça. Wow, vous êtes en train de... C'est ça qui est arrivé avec les Beatles aussi. Oui. Puis quand on regarde la vidéo de Where the Streets Have No Name,
c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Débarquer de là. Puis... Mais... Numéro 5. Le véritable nom de Ringo Starr était Richard Starkey.
Je suis pas sûr, Richard, mais oui, c'est Starkey.
Vrai?
Oui.
Ringo Starr a rejoint les Beatles en 1962. Oui. Il est devenu le batteur permanent du groupe. Mm-hmm. Et il était effectivement... Lui, il a remplacé Pete Best, là, dont on parlait tantôt. Alors, il est effectivement né Richard Starkey. Et, petite anecdote comme ça, c'est le seul membre du groupe des quatre Beatles là qui a utilisé un nom de scène. Ou en fait, qui est resté avec ce nom de scène-là. De temps en temps, John Lennon, Paul puis George ont utilisé des noms de scène à certains endroits. Des fois, on dit que c'était pour des droits d'auteur ou tu sais, pour pas. Mais le seul qui l'ait conservé, Ringo Starr, a fait carrière dans les Beatles tout le long avec son nom d'emprunt.
Ah, parce qu'encore aujourd'hui.
C'est encore ça.
Il s'appelle Ringo Starr.
Exactement. Paul McCartney est devenu le bassiste par défaut des Beatles. Parce que personne d'autre dans le groupe voulait jouer de la basse. Vrai ou fou?
Ça, c'est une bonne, celle-là. Je dirais vrai.
C'est vrai. Mm-hmm. Absolument. Jusqu'au départ de Stuart Sutcliffe, dont on parlait tout à l'heure, qui est décédé en 1962, mais qui a été le bassiste des Beatles en 60-61.
OK.
Alors, quand Paul est arrivé... Lui, c'est un guitariste. Ben, en fait, Paul était là dès l'origine. Là, okay? Mais il y avait comme trois guitaristes, je pense, dans le groupe ou un affaire de même. Puis quand Stuart Sutcliffe a quitté le groupe, là, George Harrison, puis John, ont dit non. Moi, c'est pas vrai que je vais lâcher la guitare puis je vais commencer à jouer de la basse. Alors, Paul, qui avait l'air quand même être, je sais pas moi, dans le groupe, entre John, puis je veux pas être méchant pour John, mais tu sais, comme de tête forte, là, mettons que John avait de l'air plus d'attenir son bout que Paul. Ça avait l'air du gars qui était un peu plus flexible, on va dire. Fait que Paul a dit...
Le bon gars, là.
Ouais, c'est ça, bon gars. Fait que lui, il a dit, bon, c'est correct, là, je vais apprendre la basse. Parce que les deux autres étaient pas très, très enthousiastes à lâcher la guitare pour s'en aller sur la basse. Et c'est finalement Paul McCartney qui est devenu...
Par défaut,
parce qu'il était guitariste. Et on va conclure avec une septième et ultime question pour ce quiz des Beatles. Les Beatles ont fumé des joints de cannabis dans l'une des salles de bain de Buckingham Palace à Londres avant de rencontrer la reine Élisabeth II en audience en 1965. Vrai ou faux?
En 1965?
Ouais.
Je serais tellement pas surpris que ça s'est effectivement passé que je vais dire que c'est vrai.
C'est faux.
Ah, c'est faux?
Ouais. C'est une légende urbaine.
Ah, oui.
Qui a été, en guillemets, allumée et entretenue par John lui-même. Il disait, on a fumé de la drogue, on a fumé du hash.
Oh, oui.
Mais c'était pas vrai, ça a l'air, Puis ça a été même, qui a dédié ça? Pas des journalistes, pas des gens. C'est Paul et George eux-mêmes ont dit, oui, c'est vrai. On est allé s'enfermer dans les toilettes pour aller fumer. Mais c'était pas des joints.
Ils ont fumé la cigarette,
tout bonnement. George avait même dit, plusieurs années plus tard, il dit, tout le monde fumait à cette époque-là. Comme tout le monde fumait. Fait que nous autres, on était nerveux. On disait, on va aller fumer une clope dans la salle de bain. Puis John, pour entretenir un peu le mythe de bad guy, là, puis de gars du rock and roll, on est allé fumer des joints dans les toilettes. Mais c'était
de la cigarette. Tout ça, c'était monté.
Et ça a été entretenu bien des années, jusqu'à ce que, finalement, Paul et George viennent contredire leur défunt collègue qui s'était éteint en 1980.
C'est effrayant partir des affaires de même.
Ah!
Mais sauf que ça n'aurait pas été nécessairement bien surprenant.
Venant d'eux autres?
Oui.
Ben, venant de John?
Venant de John, ça n'aurait pas été nécessairement bien surprenant. C'est ça. Il aurait peut-être fait.
Entretenir le personnage.
S'il avait été tout seul.
Ouais, probablement, exactement.
S'il avait été tout seul, il l'aurait peut-être fait.
Faut attendre qu'il l'a probablement fait ou qu'il l'a peut-être fait par la suite une fois qu'il l'a rompu avec les Beatles. Là, ça me semble que ça a l'air du genre de gars.
Un petit peu, oui. Hein? Okay. Moi, je vais te parler... Quand tu manges des frites, là...
J'adore les frites.
Ouais, je sais, les deux, on adore les frites. Tu mets-tu du ketchup?
J'aime le ketchup. J'aime bien les frites, là, mais il me semble que ça vient avec du ketchup.
Bon. Moi aussi. J'aime bien mon ketchup.
OK.
Et j'ai une sorte que j'achète tout le temps parce que j'ai essayé toutes les sortes, mais je reviens toujours à la même. C'est celle qui... où mes Steelers de Pittsburgh jouaient. Dans le stade qui était nommé après cette compagnie-là.
Le Heinz?
Le Heinz Field.
OK, moi, c'est du Shreds.
Ça s'appelait le Heinz Field.
OK.
Parce que, Ils avaient acheté le nom du stade. Anyway, tout ça pour vous dire que Heinz va sortir une nouvelle saveur de ketchup.
OK, ouais.
Il avait pas compris avec ce qu'ils ont fait en 2000, fait qu'ils ont décidé de
restituer. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en 2000? C'était le ketchup mauve. Ouais, c'est ça. Hein?
Tellement, OK, ça a tellement été un flop tellement total que le ketchup mauve est rentré au musée des échecs.
Commerciaux.
Ouais.
C'est pas fort.
Le Museum of Failure.
Ouais.
Heinz ketchup mauve fait partie de ça.
Ça, en même temps, quand tu penses ketchup aux tomates, ben tu pensais à de quoi de mauve?
Mauve, là, ben non. Comme... Ben premièrement, tu sais, du ketchup mauve, tremper tes fils dans le ketchup.
Ça fait pas très vendeur.
Donc, à partir de janvier 2024,
qu'est-ce qu'il
tu pourras acheter, parce que je pense que toi, t'es du genre que tu vas l'essayer. Là.
Non.
Le ketchup au cornichon.
Non. Non.
Voyons!
Ah, ça se peut pas. Non, j'essaierai pas ça.
Il faut, t'as pas le choix. Moi, j'aime pas les cornichons, fait que je peux pas l'essayer. Fait que toi, t'auras pas le choix de l'essayer pour nous en parler.
Okay, va-t-il falloir que j'achète une bouteille de ketchup Heinz
oui.
au Dill Pickle oui. puis que je mange ça dans le studio pour dire que,
oui.
OK. Oui. OK. Ah oui, hein?
Ah, la compagnie a dit, les gens sont tellement, aiment tellement les cornichons qu'on n'a pas le choix. Parce qu'ils ont fait un sondage, 73% des Américains disent apprécier grandement le goût des cornichons. Moi, j'aime pas ça des pickles. Bon, oui, les petites affaires sucrées, là. Les...
Ouais, ça, c'est les bread and butter.
Oui, ceux-là, oui. Okay. Ceux-là, quand on était jeunes, non?
Ouais, les petits, ça, petits
ouais,
coronations,
je pense. Ouais, ceux-là, moi, je suis capable de les tolérer, là, mais les autres, là,
mes aïeux.
Un hamburger, là, non, enlève les pickles, là, parce que ça gâche mon goût.
OK, fait qu'en janvier...
Oui, fait qu'en janvier, on pourra dorénavant acheter du ketchup au pickle.
Au Dill Pickle. Sais-tu quoi?
Quoi?
Je vais sauter mon tour. Honnêtement, j'en apporterai même pas dans le studio. C'est pas le genre de... J'avais une copine à l'époque, à une certaine époque, elle a mangé ça, elle tirait ça du bout.
Oui,
elle croquait là-dedans,
oui.
En regardant la TV ou quoi que ce soit. Genre, juste la regarder faire... J'avais presque le cœur au bord des
lèvres.
Fait que imagine.
J'en connais du monde de même aussi.
Et on est arrivé en bout de parcours pour déjà, notre émission oui. de cette semaine, en espérant que vous l'aurez apprécié avec notre entrevue de motoneige,
le radon, tout ça. Super intéressant.
Et bon, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets.
Oui, absolument.
Mais toujours à la même place, sur la même radio.
Oui, c'est ça. Passez une bonne semaine.